When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now? Doctor, doctor, what time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Touchdown Actu, le numéro 732 il me semble, alors je m'y perds un peu dans les numéros mais je pense que c'est le numéro 732 sur Touchdown Actu. On va parler de draft évidemment, Nitinia Simiong au micro, très heureux de vous retrouver et en compagnie toujours du même avec moi, évidemment la team Fantasy est aussi sur la team draft, Tonio Ajavon est avec moi, salut Tonio, comment tu vas?
Salut, salut, ça va, on change pas une équipe qui gagne, comme d'habitude.
Exactement, on change pas une équipe qui gagne, Tonio. Alors, Tonio, on plante le décor, évidemment, de la draft NFL 2024. On a déjà présenté les quarterbacks et les tight ends il y a quelques jours avec Victor Rouillet et Jean-Michel Boujard. Et là, nous, on a déjà fait entre-temps les hommes de ligne intérieure, mais du côté de la défense. Et là, eh ben, on va pas forcément changer de profil, mais on va passer de l'autre côté de la ligne de scrimmage, puisqu'on va parler des hommes de ligne intérieure, mais du côté de l'attaque, donc les gardes et les centres. Et Tonio, on va pas se mentir, c'est une cuvée quand même très profonde, mais c'est une position qui a quand même été un peu délaissée, notamment au premier tour. Il faut dire que, voilà, alors, ok, Peter Skoronski a été drafté au premier tour l'an dernier, il a joué garde, mais il a été cité en tant que tackle. Il faut dire que c'est très rare, les hommes de ligne offensive intérieure draftés au premier tour.
Ouais, ouais, je pense que c'est surtout dû à la conjoncture des dernières années, en ce sens qu'il y avait des postes qui étaient très très bien fournis. Bon, tu as parlé du poste de Thailand, c'est peut-être un mauvais exemple finalement, parce que c'était une grande classe l'an dernier, mais il n'y en a eu qu'un seul pris au premier tour. Mais je pense aussi au poste de receveur, où les 2, 3, 4 années passées, il y a eu pas mal de receveurs pris au premier tour. Les quarterbacks, on n'en parle même pas, alors ça n'a pas forcément à voir avec le niveau des joueurs en question, mais simplement de l'offre et de la demande en NFL aujourd'hui. Et apparemment, le poste de garde est un peu moins prisé. Mais tout ça, c'est très conjoncturel, à mon avis. Et ça risque de changer si ce n'est pas cette année, peut-être l'année suivante ou dans deux ans. Il n'y a pas vraiment de rapport par rapport au niveau intrinsèque des joueurs en général.
Bah justement, tu le dis très bien. Tu dis que ça ne va peut-être pas changer cette année. Bah moi, je pense peut-être que si. Et bah parce qu'on a peut-être trois joueurs qui peuvent prétendre un premier tour, et c'est l'objet de notre première partie, puisqu'on va parler de trois joueurs qui ont été très performants l'an dernier, en tout cas la saison dernière en université, et on va commencer par un centre. Et oui, hein, mine de rien, c'est un centre qui fait la tête d'affiche de notre podcast aujourd'hui, Tonio. Il s'appelle Jackson Powers Johnson, donc JPJ. Comme on dit, donc centre d'Oregon. Il vient à peine d'avoir 21 ans. Voilà, il est né en janvier 2003. Et au cours de sa carrière universitaire, Jackson Powers Johnson, il a fait un peu tous les postes de l'intérieur lors de sa première année. Il a joué plutôt garde en 2022. Et là, cette année, première année en tant que centre, et il a tout simplement explosé. Voilà, sa carrière a décollé. Clairement, je vais faire un peu le profil hein, de Jackson Powers Johnson, hein, voilà, qui est un joueur plutôt très très fluide, hein, avec un excellent voilà, mouvement au niveau des hanches, hein, notamment, hein, très, très solide, notamment pour ce qui est son jeu de passe-écran. Alors certains diront qu'il est meilleur dans le jeu de course que dans le jeu de passe. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je trouve qu'il est quand même très, qu'il est quand même très propre, en tout cas pour, on va dire, nettoyer la poche, hein, comme on dit, hein, pour ne empêcher les défenseurs d'aller sur le second rideau. Mais voilà, c'est un très très bon joueur avec des mains pas vraiment violentes, mais assez efficaces, voilà, pour essayer de contrer le defensive tackle. Pour essayer aussi voilà, d'aider le garde hein, qui est en difficulté pour pouvoir le repousser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a cette fluidité, cette technique au niveau des mains et en tout cas cette durabilité, cette endurance. Il a loupé que très peu de matchs en tout cas à Oregon au cours de sa carrière universitaire. Là où j'aurais un petit bémol, et c'est là peut-être, Tonio, où tu vas peut-être me contredire, tu vas peut-être être dans mon sens, c'est peut-être dans le jeu de course où là j'ai peut-être un petit problème, c'est peut-être qu'il n'arrive pas à identifier sur le second rideau et à monter, on va dire, de manière efficace et pour être vraiment un très bon joueur complet, on va dire, et qui pourrait peut-être l'empêcher d'être au moins allez, top 20, voire top 25 de la draft en avril prochain.
Ah, c'est marrant, ça m'est pas sauté aux yeux ce petit défaut, mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est pas totalement faux. Moi, le défaut que j'avais relevé chez lui, c'était plutôt le placement de ses mains, qui est parfois un peu aléatoire. Alors tu l'as dit, il a une bonne technique, mais des fois, il écarte un peu trop ses mains, ce qui le rend totalement vulnérable au très bon pass rusher auquel il devra faire face en NFL. Mais en dehors de ça, t'as très bien dit son profil, hein. C'est un joueur, il y a Powers dans son nom. Mais c'est pas la puissance qui saute aux yeux quand on le voit.
Je suis d'accord.
C'est presque un joueur gracieux. Alors, c'est difficile d'être gracieux quand on joue garde ou on joue sur la ligne offensive au football américain. Mais en tout cas, lui, voilà, il est fluide. Voilà, il y a pas de mouvement superflu. Tout est assez naturel, équilibré. Même quand il contacte ou il est contacté, il arrive à rester en position. Et ça, c'est très appréciable à voir jouer. Donc, je pense que c'est un très bon prospect pour le niveau supérieur. Et moi, ce qui m'attire encore plus chez lui, c'est sa polyvalence. T'en as parlé, il a joué au poste de garde ses deux premières saisons. La saison passée, au poste de centre, ça a été le meilleur centre du pays, point. Voilà. Il a été élu unanimement dans l'équipe de l'année. Puis, il n'y a rien à redire. Oregon a fait une super saison. Et c'était vraiment pas loin d'être le meilleur joueur de cette équipe, attaque et défense confondues. Non, c'est vraiment un très, très bon joueur qui devra être pris au premier tour, tu l'avais dit en introduisant ce podcast, il n'y a quasiment aucun doute. Mais voilà, ce petit défaut avec les mains qui le rend un peu vulnérable, alors évidemment, ce n'est pas dramatique, hein, tout ça peut être coaché avec un peu plus d'attention une fois qu'on est professionnel, mais c'est ce qui fait qu'à mon avis, ce n'est pas un top 15, top 10, alors qu'il en a, le talent. Voilà, et puis en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à redire. Attention aux pénalités de holding. Il en a eu quelques-unes cette saison, mais en dehors de ça, franchement, c'est un très beau joueur.
Alors justement, en dépit des pénalités hein, concernant le holding, tu le fais très bien, il a été sanctionné effectivement 6 ou 7 fois sur ce genre de schéma. Justement, en termes de schéma, on dit souvent effectivement qu'il est meilleur dans les schémas de jeu de course, en tout cas en NFL, ça va peut-être se vérifier. Mais toi, justement, ton avis sur le schéma de jeu dans lequel Jackson Power Johnson peut être meilleur en NFL, est-ce que tu vas dans ce schéma, ce qu'on appelle en gap, c'est-à-dire avec beaucoup de passes, ou alors un schéma en zone.
C'est marrant, j'ai marqué dans mes notes schéma, gap ou zone. j'ai un peu l'impression que ce mec peut faire à peu près tout. Après, effectivement, au vu de ses qualités qu'il a aujourd'hui, où il est un peu plus agile, un peu plus fluide que d'autres joueurs de ligne offensive, il serait a priori plus adapté à un schéma zone où il y a plus de mouvements sur la ligne offensive. Là, ça correspond un peu plus à ses qualités. Mais au bout d'une saison ou deux, et dans un programme de développement NFL, je ne doute pas qu'il aura la force nécessaire pour jouer dans un schéma plus classique, plus traditionnel de gap, où là, on demande plus de puissance aux joueurs de ligne offensive.
Voilà, donc effectivement, Jackson Powers-Johnson, hein, on verra bien. En tout cas, la puissance, effectivement, il faut qu'il gagne encore un peu plus. Voilà, mais on sent que le joueur, voilà, peut être titulaire dès la première semaine. En tout cas, ça dépendra effectivement des camps d'entraînement et de ce qu'il va faire, en tout cas, lors de l'intersaison, après qu'il sera sélectionné. On va passer à un autre joueur. Alors, lui, c'est un joueur qui est très complet. Quand je dis qu'il est très complet, ouais, c'est-à-dire que c'est un joueur où il a joué toutes ses saisons universitaires en poste de tackle. Et pourtant, ouais, à l'échelon supérieur, il va jouer probablement garde, voire même centre. Parce que au Senior Bowl, Graham Barton, donc le joueur de Duke, l'université de Duke, a joué centre au Senior Bowl. Enfin, en tout cas, il a fait des répétitions sur ce poste-là. Mais vu son envergure et vu sa mobilité, on comprend tout à fait pourquoi il va jouer garde, Tonio. Et donc, Tonio, ma question, c'est la suivante. Pourquoi finalement il ne ferait pas un très bon tackle également en NFL?
Ben, pour moi, c'est la longueur de ses bras qui est correcte, mais qui est, disons, pas proportionnelle à sa taille.
Je ne voulais même pas le dire, mais voilà, c'était ça en fait, la réponse entre guillemets évidente.
C'est ça, quand on fait 1m96, on peut s'attendre à une envergure de malade, et malheureusement il est un peu disproportionné à ce niveau-là, mais en revanche il a de très très grandes qualités. Moi, ce qui me plaît le plus chez lui, c'est qu'il finit ses actions, il va toujours au bout de ses actions. Et tout ça avec maîtrise. C'est-à-dire qu'en général, on parle de finisseurs, et d'ailleurs, il y a d'autres joueurs dont on va parler qui ont à peu près cette même qualité. On a peur que ça aille au-delà du réglementaire et que ça tombe dans des pénalités. Lui, ce n'est vraiment pas le cas. Il va au bout de ses actions, avec force, avec puissance, mais toujours, toujours maîtrisé. Et ça, dans le jeu de course, c'est hautement appréciable. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il fera un très bon garde en NFL. Et il ne fera pas du tout un bon tackle à cause de ses bras... malheureusement un peu trop court pour le poste, surtout quand on voit la qualité en termes de vitesse des pass rushers actuels en NFL.
Est-ce qu'on est là sur un futur Peter Skoronski qui a été sélectionné l'an dernier? Donc on voyait tackle gauche, hein, à Northwestern. Là, Graham Barton, bah, il joue tackle gauche, hein, à Duke. Il a eu quand même les mêmes difficultés qu'il a eues lors de la saison 2022. Il a quand même concédé encore beaucoup de pression. Il a concédé 2 sacks cette saison. Bref, est-ce qu'on est là sur un profil similaire aux joueurs des Titans?
Si on parle de la transition d'extérieur à intérieur de la ligne offensive, je pense que tu as tout à fait raison. C'est à peu près les mêmes défauts qu'on avait relevés à Skoronski l'an dernier. Donc sur ce point-là, oui. Par contre, je pense qu'il sera idéalement mieux au poste de centre que de garde. Pourquoi? Parce qu'il a une très grande, en tout cas, j'ai pas vu tous ses snaps, hein, je vais pas mentir, mais de ce que j'ai vu, il a une grande compréhension du jeu, c'est-à-dire que il peut se faire battre, mais c'est jamais de sa faute. C'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe en face de lui, il arrive à l'identifier, à l'analyser, et s'il se fait battre, c'est juste parce que le joueur en face de lui est meilleur que lui. Mais c'est jamais parce qu'il a manqué une consigne, parce qu'il n'arrive pas à identifier le jeu, et ça, c'est ce qu'on demande à un centre. C'est quasiment d'être le deuxième quarterback sur le terrain, tout de suite identifier s'il y a des changements, dire un petit mot au quarterback derrière s'il a les mains à ses fesses, comme on dit, et la tête à son oreille. Donc ouais, je pense qu'il sera plus centre que garde, c'est pour ça que la comparaison avec Skoronski s'arrêterait peut-être là, mais en termes de transition de l'extérieur de la ligne vers l'intérieur de la ligne, la comparaison est tout à fait justifiée.
Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse, et honnêtement, hein, moi je trouve que voilà, la taille... pas l'envergure, j'ai envie de dire, mais en tout cas le profil en tant que centre et garde, clairement il a. Mais moi j'ai envie de te dire que voilà, en NFL, s'il joue à ce poste-là, il a largement les qualités pour devenir un futur pro bowler, et peut-être, et moi je vais même aller plus loin, dès sa première année. Parce que wow, clairement, il a... Ouais, non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il est, il n'a à peine 22 ans, donc il a même pas 22 ans. Et justement, comme tu disais, il a vraiment un QI football qui, je trouve, est assez exceptionnel. Et tu l'as dit au début de ton introduction sur le profil de Graham Barton, c'est un joueur avec la bonne violence. C'est-à-dire qu'il finit vraiment très bien ses actions. Et je pense qu'en NFL, ça va être des qualités qui vont être très appréciées par les recruteurs NFL. On va passer à un finaliste universitaire pour notre dernier joueur de cette première partie. Lui, il est un peu plus expérimenté. C'est un joueur pareil, comme Graham Barton, qui a joué tackle gauche durant toute sa carrière universitaire. Et pourtant, en NFL, bah lui, il va probablement jouer garde, et pour les mêmes raisons quasiment, l'envergure et même une certaine mobilité latérale un peu, on va dire, limitée par rapport au prérequis au poste de tackle. Moi, je trouve que Troy Fautanou, en tout cas le garde de Washington, c'est un joueur qui est hyper athlétique, qui est très polyvalent et qui est surtout très physique. Voilà, c'est vraiment un joueur hyper physique avec une certaine, voilà, moi j'allais pas dire fluidité, mais en tout cas au niveau de la mobilité, bon, il a pas la mobilité d'un tackle, c'est sûr, mais en tout cas en tant que garde, c'est suffisant. C'est suffisant. Et en tout cas, au niveau de la technique, voilà, c'est là où je trouve qu'il doit faire des progrès. Il a quand même concédé beaucoup de pression à Washington. Il a parfois des oublis sur le pass rusher auquel il doit bloquer. Et donc, c'est pour ça que sur certaines vidéos, quand je vois post tackle, je me dis, bah non, en fait, c'est un garde. C'est définitivement un garde. Et je me dis que finalement, s'il joue tackle en NFL, c'est pas lui rendre service. Tonio, Troy Fautanou, donc très bon pour le jeu au sol, alors que pourtant à Washington, il était plutôt très 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 aligné dans un schéma en passe.
Bah ouais, l'attaque de Washington l'an passé, ça bombardait dans tous les sens. Donc j'ai envie de dire qu'il s'est adapté à son environnement, mais en NFL, pour les qualités qu'il a aujourd'hui, et ça c'est un élément qui à mon sens est assez important, c'est qu'il aura 24 ans en octobre, donc son plafond n'est peut-être pas aussi élevé que d'autres prospects, mais pour les qualités aujourd'hui qui sont peut-être proches de celles qu'il aura pour le reste de sa carrière, il est beaucoup plus adapté au poste de garde en NFL. T'as tout bien dit, hein, c'est un phénomène physique, un phénomène d'agilité, de souplesse. Quand on regarde son bas du corps, il est très, comment dire, très réactif, quoi. Quand ça va à gauche, il va à gauche. Quand ça part à droite, en un quart de seconde, il arrive à partir à droite. Et ça, avec son poids, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une agilité qui est rare pour un joueur d'un tel gabarit. Et après, tu l'as très très bien dit, sa technique laisse parfois à désirer. Et c'est pour ça que, ben, comme tu l'as dit, le faire jouer tackle en NFL, ce serait pas un cadeau. Ce serait vraiment pas un cadeau. Il a presque les attributs physiques d'un tackle, mais la mentalité, le tempérament d'un garde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Si, tout à fait, tout à fait. Alors, je sais pas si les gens qui nous écoutent voilà, verront la comparaison, entre guillemets. Mais tu vois, par exemple, c'est un peu l'inverse d'un Tyler Smith, enfin de l'ex-joueur de Tulsa, donc le joueur de Dallas, des Dallas Cowboys, parce que lui, il a réussi à faire la transition entre garde et tackle, alors que lui, il jouait tackle à Washington, et on le voit, hein, à Washington, Michael Penix, dans le côté aveugle, il contrôlait beaucoup plus, on va dire, Troy Fautanou, mais sinon, c'est vrai qu'en tant que garde, il va devenir un joueur, je pense, très solide. De là, en faire un premier tour, moi, je ne pense pas. Je ne mettrai pas ma main coupée. Mais en tout cas, le joueur de Washington possède, effectivement, comme tu disais, une très belle agilité. Et je pense que pour le jeu de course, monter au second rideau ne va pas vraiment être difficile, en tout cas au niveau NFL. Ouais.
Et juste pour les joueurs qui, comme lui, sont très agressifs, les joueurs de ligne comme lui qui sont très agressifs, il faut faire attention à canaliser cette agressivité. Alors, pour le coup, on parlait de Barton tout à l'heure. Lui, il n'y a pas de souci. Pour Fautanou, il faudra faire attention. Attention à ce que l'agressivité ne se transforme pas en indiscipline.
Voilà, et agressivité dans le sens, être discipliné, ne pas être trop haut, on va dire, au niveau des mains, ne pas se comporter comme un lutteur professionnel, on va dire, au moment de contacter le lineman défensif. Mais voilà, Troy Fautanou, c'est un joueur qui va intriguer beaucoup de recruteurs NFL, ça j'ai pas de doute, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le joueur de Washington a beaucoup d'arguments en sa faveur, lui aussi a beaucoup d'arguments en sa faveur, et lui, par contre, il fait partie de notre deuxième partie, alors qu'il aurait pu faire partie de notre premier tiers. On aurait peut-être pu l'inverser avec Troy Fautanou. Lui, on le catégorise souvent comme tackle, puisqu'il a joué à ce poste-là pendant toute sa carrière quasiment universitaire également Arizona. Donc, ce joueur, c'est Jordan Morgan. Donc, on l'a catégorisé comme garde et que vous le verrez finalement dans ce podcast-là sur les hommes de ligne offensive intérieure. Plus de 2500 snaps, effectivement, en carrière pour Jordan Morgan. Et finalement, Tonio, Jordan Morgan, pourquoi on le met en garde au lieu de tackle, finalement?
Parce que pour moi, bon, j'avoue que j'ai un peu poussé pour qu'on en parle dans ce podcast, parce que pour moi, il y a des défauts qui seront trop durs à surmonter en NFL pour jouer tackle. Alors, comme j'ai l'impression qu'on se répète, mais comme les autres, évidemment, il y a son envergure qui est assez limitée. Mais surtout, quand on le voit jouer, et pourtant, comme tu l'as dit, il a énormément joué à Arizona, beaucoup, beaucoup, beaucoup de snaps. Mais quand je le vois, dans ses pas chassés, il est trop agressif. Alors, je ne parle pas de violence physique, mais agressif dans ses montées. C'est-à-dire qu'il monte trop vite, et ça expose le quarterback et ses camarades de ligne offensive à des espaces à l'intérieur de la ligne. Et ça, au niveau universitaire, ça peut passer. En NFL, ça ne pardonnera jamais. Ça ne pardonnera jamais, et surtout qu'il peut se faire déborder très facilement par des pass rushers qui... Bon, voilà, c'est presque les meilleurs athlètes de la NFL aujourd'hui, les pass rushers. Donc, une erreur comme ça, enfin, un truc comme ça, c'est presque une caractéristique qui est trop dure à gommer pour jouer tackle en NFL. Et pourquoi je veux qu'on en parle, je voulais qu'on en parle dans ce podcast, c'est parce qu'il a des qualités qui pourraient en faire un excellent garde. Il est agressif cette fois, l'agressivité en termes de violence physique. Au snap, il part tout de suite, il a un premier pas avec énormément d'énergie, ça c'est très notable. Une belle endurance aussi, que ce soit au début du match ou à la fin du match, il est toujours sur le même niveau d'énergie, et ça c'est excellent pour la NFL où évidemment on va lui demander de se donner encore plus. La vitesse de ses pieds également, ça c'est notable. Il a une facilité à changer de direction. Et voilà, tout ça, c'est des petites qualités qui font que ce sera un excellent garde pour moi en NFL. Je pense qu'il n'ira pas au-delà du deuxième tour, voire début du deuxième tour. Et au poste de garde, c'est un prospect très, très intéressant.
Moi, j'ai noté des qualités, en tout cas, d'amélioration sur la protection de passe. Voilà, j'ai clairement vu vraiment une amélioration, surtout à Arizona, qui a fait une saison magnifique en 2023. Si le quarterback d'Arizona, Noah Fifita, fait une superbe saison, c'est grâce notamment à la protection et grâce à son tackle gauche, donc Jordan Morgan. Moi, j'ai vraiment un faible pour Jordan Morgan, en tout cas pour le jeu de course. Ça, c'est sûr, parce que clairement, c'est vraiment un très bon joueur. Mais tu le dis très bien, c'est vrai que monter au second rideau, il va parfois trop vite, voire il oublie parfois les fondamentaux. Et c'est un peu dommage parce que justement, vu qu'il est expérimenté, s'il gomme pas ça au niveau NFL, et je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que ça peut être très, très problématique. Et probablement que les tests physiques et les tests, on va dire, athlétiques ne vont pas le sauver lors de sa future sélection en avril prochain.
Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Et après, bon, au poste de garde, c'est un peu moins préjudiciable parce que donc tout le jeu de passe ne repose pas sur toi. Au poste de tackle, c'est fini. Là, ce sera beaucoup trop dur pour lui. Et non, en tant que garde, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a de belles qualités. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il est quand même très lourd. Il fait 147 kilos, donc c'est la fourchette haute, hein, même pour les joueurs de NFL. Et pourtant, il a une certaine souplesse, il a une pliabilité qui est assez hors du commun. C'est-à-dire qu'il arrive à jouer près du sol.
Ouais,
ouais, ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il fait du yoga à ses heures perdues ou quoi, mais non, il arrive à jouer près du sol, ce qui fait que ça limite l'exposition de sa taille. Il est près du double mètre, donc ça, c'est très intéressant pour le poste de garde. Et puis voilà, ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est un faux twinner, quoi. C'est un twinner sur le papier, mais en réalité, je pense que en tant que tackle, il a pas d'avenir en NFL.
Je rappelle twinner, donc trop petit pour trop grand là en l'occurrence pour la position, mais pas assez, on va dire, mobile pour la position également. Mais en tout cas, la combinaison de puissance et ses qualités athlétiques vont peut-être faire que Jordan Morgan pourrait avoir effectivement une chance, pourquoi pas, dès le deuxième tour. On verra ça en tout cas lors du combine dans quelques jours, hein, puisque le combine va avoir lieu dans la semaine où vous écoutez ce podcast. Lui, par contre, au combine, il va devoir cravacher. Il va devoir cravacher parce que c'est un joueur, ok, expérimenté, et qui aurait dû, selon moi, se présenter à la draft l'an dernier. Parce que l'an dernier, je suis quasi sûr qu'il serait un premier tour de draft. Mais malheureusement, donc Cooper Beebe, le garde de Kansas State, est retourné en université, donc pour une année supplémentaire, pour peut-être faire le doublé, puisque Kansas State avait remporté le championnat de Big 12 en 2022. Et en 2023, bah, malheureusement, Kansas State n'a pas fait une finale de conférence, à moins que je me trompe, c'est, j'en oublie même la saison universitaire. Donc voilà, corrigez-moi si j'ai fait une erreur, en tout cas dans ce podcast. Mais en tout cas, Cooper Beebe y est retourné. Et là, malheureusement, il se présente maintenant, on va dire. Et malheureusement, les défauts qu'on a vus l'an dernier, eh ben, ils sont toujours là. C'est-à-dire, effectivement, ouais. la mobilité latérale n'a pas, entre guillemets, vraiment été réglée. Il y a toujours ce problème, notamment au niveau du rétro-pédalage, entre guillemets, lorsque le pass rusher, on va dire, est plus agile que lui. Mais sinon, il a toujours les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'il a un énorme QI football, il est super intelligent. Voilà, c'est un joueur très polyvalent puisqu'il a joué parfois tackle gauche. En tout cas, à Kansas State, il a joué à ce poste-là quelques fois. Il est hyper puissant et c'est un excellent point d'ancrage. C'est un excellent point d'ancrage, malgré effectivement une mobilité parfois assez réduite. Mais dans le jeu de course, moi, je trouve qu'il peut être très intéressant plutôt que sur la protection de passe où sa mobilité latérale va le pénaliser. Cooper Beebe, un joueur que Victor, qu'on salue, adore, voilà, qu'il adorait l'an dernier. Là, Tonio, pour cette année 2023, Cooper Beebe, est-ce qu'on le voit descendre au-delà du troisième tour ou alors, alors c'est pour ça qu'on l'a mis dans la deuxième partie, on va pas se mentir, ça reste un très bon joueur, hein. Mais voilà, est-ce que il est retourné à l'université juste pour consolider ses fondamentaux au point de sacrifier entre guillemets une place au premier tour?
Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de revenir cette saison. Peut-être, comme tu l'as dit, c'était pour faire le doublé. Peut-être qu'il n'était pas prêt mentalement à sauter le pas professionnel. Mais en tout cas, en termes d'évaluation pour le plus haut niveau, on ne va pas dire que ça a empiré son cas, mais en tout cas, ça ne l'a pas amélioré. On n'a rien découvert de plus. Et il n'y a pas de gros défauts qui se sont améliorés non plus. Tu l'as très bien dit, sa mobilité à reculons, il a du mal également pour le moment. Il a un gros défaut d'équilibre. Alors, si c'est pour l'intérieur de la ligne, c'est moins préjudiciable. Si c'est pour jouer tackle, là aussi, ça va pas pouvoir le faire en NFL. Alors, pour moi, et c'est une hypothèse, hein, ce défaut d'équilibre est peut-être dû à son poids, parce que pour le coup, on parlait de fourchette haute tout à l'heure. Lui, il est à plus de 150 kilos, donc c'est vraiment un gros bébé. Et j'ai pas envie non plus qu'il perde de poids parce que sinon ça entamerait ses qualités qui font pour moi que c'est un joueur de deuxième tour grand maximum. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, point d'ancrage. Une fois qu'il est ancré au sol, bonjour pour faut se lever tôt pour aller
pour le bouger, oui. Pour le bouger, je suis d'accord. Ouais. Il va falloir se lever tôt. On l'a déjà dit pour les hommes de ligne défensive intérieure, mais on a l'impression qu'on se répète, mais c'est pareil hein, pour les hommes de ligne offensive intérieure pour pouvoir le bouger, surtout couper un bibi. Voilà, il faut vraiment avoir une certaine puissance. Et mais par contre, justement, vu que parfois on peut aller en contact avec lui, justement, sa technique qui est très bonne, hein, peut parfois est très propre, peut parfois être mise à mal. Et donc parfois ça peut conduire à des petits holdings par-ci par-là. Donc on l'a vu faire un peu plus cette saison en 2023 à Kansas State qu'on n'avait pas vu en 2022. Donc là, on va dire, entre guillemets, qu'il se sauve un peu, on va dire, par rapport à un apprentissage NFL. Mais justement, en NFL, c'est là où il aurait pris plus. Et là, je me demande si cette saison en NFL, vu qu'il a un an de plus à son compteur, le potentiel est peut-être, on va dire, un peu plus bas par rapport à l'an dernier.
Ouais, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible que, comme d'autres joueurs qu'on a mentionnés et qu'on mentionnera, il est proche de son apex, du niveau maximum qu'il atteindra. Mais les qualités qu'il a sont tellement évidentes que pour moi, il n'y a pas de souci. Il sera drafté assez haut quand même, deuxième jour maximum. Moi, ce que j'adore chez lui, alors tu l'as très bien mentionné, hein, c'est que des fois, il triche un peu avec ses mains. Il a de très bonnes mains, mais des fois, il se fait un peu prendre par la patrouille. Alors, tous les grands joueurs de ligne offensive, ils ont un peu ce côté truqueur, donc c'est pas un souci. Par contre, il va pas jouir de ce pedigree-là en tant que rookie. Il faudra qu'il fasse très très attention pour pas trop se faire pénaliser.
Voilà, et pour info d'ailleurs, cette saison, il a concédé ses premiers sacs, puisqu'il n'en a jamais concédé avant. Il a concédé quand même 2 sacs cette saison. Et c'est aussi ça qui va peut-être le faire descendre lors de cette draft NFL 2024. Dernier joueur de notre deuxième partie, lui aussi, il aurait pu se présenter l'an dernier. Alors lui, c'était, on va dire qu'il avait une cote un peu moins haute que Cooper Beebe. C'est Cédric Van Pran-Granger. Donc on va l'appeler Cédric Van Pran, voilà, pour faire plus court. Double champion universitaire, Tonio, à Georgia, hein, Cédric Van Pran. Donc il joue centre. Il a joué toute sa carrière universitaire au poste de centre. Finalement, Cédric Van Pran, est-ce que derrière Jackson Powers Johnson, on va exclure, entre guillemets, Graham Barton des centres? Est-ce qu'on n'est pas là sur un deuxième centre vraiment à l'unanimité?
Ah ouais, unanimité. Parce que moi, de ce que j'ai vu...
Alors, il y en aura un autre dans la troisième partie, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais. Alors, moi, je vais d'abord dire mon avis. Je pense que c'est un joueur de deuxième, troisième tour grand maximum. Mais de ce que j'ai vu des premiers mock drafts qui sortent, il va aussi haut que la fin du premier tour et aussi bas que le début du quatrième. C'est un prospect qui est assez polarisant. Alors, pour moi, c'est un peu facile, mais je dis que c'est un joueur de... Je vais couper la poire en deux, c'est un joueur de deuxième, troisième tour. Mais pourquoi? Parce que, pareil, il a des qualités très fortes. Alors d'abord, ce qu'on appelle les intangibles, c'est que c'est un champion. C'est un champion, c'est un leader. Ça a été un élément majeur de la meilleure équipe universitaire pour moi des 3 dernières années. Parce que sans cette défaite contre Alabama l'an dernier, il y a fort à parier que Georgia serait allé au bout et aurait remporté un troisième titre consécutif.
Ouais, attention à Michigan. Hein. Bon, allez, on fait un aparté un peu saison universitaire, mais ok.
Bon, je m'avance, de toute façon, c'est totalement hypothétique. Mais disons qu'ils ont tout perdu sur un match, alors qu'en termes de niveau pur, c'était pas loin d'être la meilleure équipe encore cette saison. Et Cédric Van Pran était un des éléments majeurs. C'est un joueur très cérébral, un leader, un capitaine. Et il va arriver dans un vestiaire NFL, il ne va pas faire tâche du tout. Non seulement il ne va pas faire tâche, mais je pense que très vite, il va servir d'exemple. Et c'est le genre de joueur que les coachs adorent. Voilà, c'est un ami du quarterback qui étudie ses jeux, qui est au courant de tout. Ça, c'est pour le côté intangible. Pour ce qui est du jeu en lui-même, dans le jeu de course, il est impeccable. L'équilibre, la force, l'agressivité, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, en termes de mouvement, là, il est un peu plus limité. C'est-à-dire que latéralement, il ne bouge pas très très bien, pas très très vite. Il joue parfois aussi un peu droit. C'est ce que j'ai noté des vidéos que j'ai vues. Ce qui, comme tous les joueurs de son gabarit, le rend vulnérable au bloc. Mais en tout cas, dans le jeu de course, il n'y a pas de souci. Dans le jeu de passe, j'ai un peu plus de mal. Et c'est pour ça que je pense que le système sera clé pour lui. Je ne sais pas dans quelle équipe il sera drafté, évidemment. Mais s'il est dans un schéma zone à la Kyle Shanahan, ça va être compliqué pour lui. Ce sera un joueur de rotation au grand maximum. Mais si c'est un joueur dans un système gap comme, tu parlais de Michigan tout à l'heure, à la Jim Harbaugh, à l'ancienne, où on ne va pas lui demander de beaucoup bouger, mais seulement d'utiliser sa force, sa puissance, là, c'est un potentiel titulaire et je crois beaucoup en ses qualités.
Allez, premier tour aux Chargers. Allez, Cédric Van Pran. Comme ça, c'est parfait pour le jeu de course des Chargers, comme apparemment l'actualité l'aurait mentionné. Oui, je suis assez d'accord, sinon blague à part, avec ton analyse sur Cédric Van Pran. Moi, j'ai noté évidemment comme défaut, c'est l'équilibre. Ah oui, clairement, l'équilibre en protection de passe. C'est clair que pour un centre, il a peut-être le prototype idéal, mais alors en termes de puissance, c'est clairement pas ça. Il avait, entre guillemets, un peu de chance d'être dans l'équipe double champion universitaire. Mais s'il était, par exemple, un joueur majeur, on va dire un joueur clé, dans une équipe un peu moins populaire en université, là, on l'aurait probablement vu tous ses défauts. Là, ça se voit peut-être un peu moins. Et justement, lors du combine, les entretiens et effectivement les tests physiques, notamment en ce qui concerne les sauts, l'agilité, également et les tests physiques, notamment le développé couché, vont être peut-être assez importants pour lui, car sinon c'est une place dans les 3 premiers tours qui serait compromise. Donc vas-y. Ouais.
Non, ce que j'ai noté simplement, c'est une petite analogie un peu marrante. Pour moi, c'est un peu le pendant offensif de Nakobe Dean qui a été drafté il y a 2 ans par les Eagles. C'est-à-dire, c'est un mec, un leader, un mec très intelligent, qui va jamais poser de problème, qui va même au contraire être un exemple pour les coéquipiers jeunes et moins jeunes, mais qui a des petites limites physiques qui font qu'il n'y sera pas un joueur sélectionné au premier tour ou même deuxième tour, j'y crois moyen, pour être honnête.
En plus, tu as cité un joueur de Georgia, donc ça tombe bien. Donc,
Ouais, c'est ça.
superbe analogie. Dernière partie de notre podcast, Tonio, et les trois derniers joueurs qu'on va évoquer, je vais y arriver. Un joueur qui est pour moi, qui normalement, il devrait être dans la première partie, lui. Il devrait être dans la première partie, parce que sinon, sans ses blessures, Christian Mahogany, le joueur de Boston College, voilà. Est un joueur, moi je trouve, qui a le profil idéal pour jouer en NFL. Il est athlétique, il est puissant. Non seulement il est puissant, mais il est aussi assez technique. Il est assez intelligent comme joueur. Et je trouve, comme un peu comme Graham Barton, que c'est vraiment un joueur qui finit assez bien les actions, assez bien les blocs. Voilà. Après, voilà, il peut être un peu nonchalant, voilà, c'est peut-être dû à ses blessures, voilà, essayer de ne pas trop en faire, on va dire, dans le bloc, essayer de ne pas trop monter aussi dans le second rideau, on va dire, de manière agressive, on va dire. Et donc, ce qui conduit parfois à une certaine, une certaine malchance, on va dire, entre guillemets, donc comme des blessures, comme il a pu en subir il y a l'année dernière, rupture des ligaments croisés. Là, cette année, il est bien revenu avec Boston College. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment un joueur important dans le système de Boston College qui a fait une meilleure saison que ce qu'on avait prévu en 2023. Mais voilà, c'est un joueur impressionnant qui est vraiment polyvalent dans n'importe quel schéma. Mais malheureusement, c'est ce passif de blessure qui fait qu'il est seulement dans notre troisième partie. Et finalement, c'est peut-être là où le bât blesse, Tonio. C'est que vraiment, le prototype et les vidéos, en tout cas, et les jeux sur lesquels Christian Mahogany nous a montré, font que peut-être que c'est un prospect qui voilà, est un peu acquis tout double, quoi. Ouais, on le prend, il faudra bien le développer. On ne le prend pas, on risque de passer à côté.
C'est toujours assez difficile de prendre cette décision quand on est general manager. Mais tu l'as très bien dit. Alors, je dirais même que tu l'as un peu sous-vendu. Tu as dit qu'il était important. C'est plus que ça. C'était presque la pierre angulaire du système offensif de Boston College. J'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder des highlights de la saison de Boston College, des highlights offensifs. Quasiment tous les jeux de course se passent derrière Mangan. Ça en est presque comique. Dès qu'il y a un jeu de course,
C'est vrai,
on cherche le
ça c'est
numéro
vrai.
73
Numéro
et ça passe
73,
derrière lui.
exactement, oui.
C'est ça. Et effectivement, quand on le voit dans le jeu de course, il est assez incroyable, quoi. Physiquement, c'est un
Ah,
mammouth,
c'est
quoi.
ah,
C'est un
c'est
monstre.
un c'est un c'est un vrai joueur de NFL, hein, limite, hein,
Bah
l'an
ouais.
dernier en niveau universitaire. C'est pour ça que quand je disais l'an dernier, il devait se présenter à la draft NFL. Malheureusement, il y a eu cette blessure, cette rupture des ligaments croisés. Mais en 2023, il n'a rien perdu et c'est comme s'il était peut-être meilleur que ce qu'on attend finalement.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, peut-être le petit défaut qui est assez notable, mais c'est dans le jeu de passe, où il est un peu irrégulier, pareil dans ses pas chassés, dans son positionnement du corps. Mais tout ça peut se corriger assez facilement. Je suis sûr, je suis même certain qu'il y a des coachs de ligne offensive qui vont tanner leur coach principal et tanner leur general manager pour leur dire, hey, mais ce mec, il me le faut. Il me le faut, allez me le chercher, il me le faut. Et c'est un diamant brut que je vais polir. Et puis vous allez voir, dans 1 ou 2 ans, on va en parler comme un all pro. C'est typiquement le genre de prospect, ça m'étonnerait vraiment pas du tout s'il tombe dans la bonne équipe avec le bon staff. On se dit, ben, dans 2 ans, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Pourquoi on a attendu le deuxième ou troisième tour pour le drafter? Parce qu'il a vraiment des qualités qui sont assez hors normes, quoi. Pareil, il est au-dessus des 150 kilos et il bouge très très bien. Alors, il a peut-être un peu de mal à démarrer parce forcément, il est très lourd, mais une fois qu'il est lancé, il atteint le second rideau, mais avec une facilité assez déconcertante. Ouais, non, il est bien rapide pour les pass rushers de la NFL qu'il va devoir affronter. Non, non, c'est vraiment un très beau joueur avec les bémols que tu as mentionnés, c'est-à-dire la santé, peut-être la mentalité, parfois un peu trop en dilettante. Mais voilà,
Je
les
suis
interviews vont
d'accord avec
être clés
ça.
pour lui.
Ouais.
Les interviews vont être clés pour lui.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est effectivement les entretiens qui vont être très importants pour lui, son passif de blessure. Comment voilà, tu gères cette blessure, comment tu as pu être meilleur que, par rapport aux années précédentes. Voilà, donc clairement, Christian Mahogany, en plus, ok, il a 23 ans, il a peut-être perdu une année, mais clairement, c'est un joueur qui est déjà prêt pour la NFL. Alors oui, on vous le vend peut-être comme un joueur qui ferait partie de notre première partie, comme je l'ai dit au début de l'introduction, mais malheureusement, c'est ce passif de blessure est trop important pour pas passer à côté. Et donc, malheureusement, Christian Mahogany, si jamais il est pris au premier tour, là, on va faire les gros yeux. Par contre, s'il est pris au troisième, quatrième tour, on dira peut-être que c'est le bon coup de la draft. Voilà, pour une équipe NFL.
C'est exactement ça. Oui. C'est le genre de joueur, tu le sélectionnes au premier tour, et s'il se blesse trop, ça peut te coûter ton job. Mmh. Et si tu le sélectionnes au troisième tour, et qu'il se révèle être un des meilleurs de la ligue au bout d'une saison ou deux, et là, on dit que tu es un des meilleurs général managers de NFL, quoi.
Voilà. D'ailleurs, on va parler d'un autre Christian pour enchaîner, Tonio, le garde de Connecticut, donc Christian Haynes, donc l'université de UConn, en fait. Alors, UConn, c'est plus une fac qui est connue pour l'équipe de basket. Sauf ouais, que là...
Féminin et masculin.
Voilà, exactement. Féminin et masculin, oui, pardon. Excusez-moi. Et lui, techniquement et athlétiquement, Christian Haynes, c'est vraiment un très bon joueur. Mais alors, pourquoi c'est un joueur qui a des limites craignantes en NFL?
Parce que c'est un joueur propre, discipliné, mais qui n'a aucune qualité exceptionnelle. Il n'y a rien qui est flashy, il n'y a rien qui ressort du lot, mais il est correct à peu près partout. Et c'est ça, c'est un peu traître la draft en ce sens-là, c'est qu'on tombe souvent amoureux de grandes qualités athlétiques. J'en sais rien, quel exemple je peux citer, Cardale Jones par exemple à l'époque au poste de quarterback, un monstre physique, waouh, on en parlait après ces trois matchs là de playoff comme un futur premier tour. Pourquoi? Simplement parce qu'il a un physique énorme, et ça arrive à tous les postes, et tous les ans on se fait un peu avoir, et je dis on, c'est les dirigeants de NFL, mais même nous les observateurs, on tombe un peu trop amoureux de qualités qui sortent un peu du lot, et des joueurs qui sont juste propres, qui font juste le job sans plus, mais sans forcément de moins non plus, des fois passent un peu en dehors, à travers les mailles du filet. C'est dommage, parce que je pense que c'est un très bon prospect, Christian Hayes, hein, je pense que ce sera un pro de qualité. Il est dur au mal, il a fait quasiment 50 matchs consécutifs, 49, et 49 matchs d'affilée en tant que joueur de ligne intérieure, c'est qu'on joue forcément avec des blessures, et il a très très bien joué. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci pour la NFL, où il va prendre des coups encore. C'est un athlète qui est fluide, qui est coordonné. On parlait du second rideau tout à l'heure avec Mahogany. Là aussi, il y va sans problème. Alors, ce n'est pas une flèche, hein, mais il y va sans problème. Il bouge très bien ses pieds, il est technique. Enfin, y a vraiment aucun défaut, aucun gros, gros défaut. Peut-être son petit manque d'équilibre. Il finit un peu trop souvent au sol, à mon goût. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de grand défaut, mais il n'y a pas de grande qualité non plus. C'est juste un joueur propre, quoi. C'est un 12-13 sur 20 à chaque fois.
Moi, si je dirais sa plus grande qualité, c'est probablement ses mains. C'est vrai qu'il est hyper actif, il met ses mains limite comme un defensive tackle un peu partout pour limite ajuster un peu sa technique au niveau des mains. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu réservé, notamment dans le jeu au sol. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la mobilité au second rideau, il y a mobilité. Il y a mobilité pour arriver directement vers le défenseur et savoir qui tu dois bloquer, et il y a mobilité pour essayer de le bloquer pour pas que le défenseur puisse attraper le coureur. Ouais. Et là, Christian Haynes, il est malheureusement dans la deuxième catégorie. Et là, malheureusement, je pense que voilà, ça va être un joueur solide, pas plus. Voilà, clairement. Et je pense que voilà. Et je pense qu'il va faire la rotation pour le moment en première année, afin peut-être de devenir un titulaire. Plutôt fiable, on va dire, dans les prochaines années en NFL, on l'espère pour lui. Le dernier joueur de cette dernière partie, et forcément, j'ai envie en tout cas de passer un peu de temps à en parler de ce dernier joueur, car c'est un joueur qui est pour moi un centre de qualité, qui a un vrai moteur, un vrai point d'ancrage pour les attaques. Ce joueur, c'est Zach Frazier, le joueur de West Virginia, des Mountaineers. C'est pas tous les jours hein, qu'on entend parler des joueurs de l'université de West Virginia.
La dernière fois, c'était Geno Smith, non?
Ouais, Geno Smith ou peut-être un autre dans les précédentes drafts. Bref, j'ai oublié.
Il y avait le receveur qui avait été drafté par les Bears, là. Kevin White.
Ouais, Kevin White. Oula, oui. Alors là, ouais, là ça date déjà. Là. Ouais. Donc, Zach Frazier, pour revenir sur lui, très, très, très bon joueur, en tout cas pour le jeu au sol. Voilà, c'est clairement un excellent joueur pour le jeu au sol, avec des mains extrêmement fiables, mobiles, actifs. Et clairement, dans n'importe quel schéma, que ce soit en gap ou en zone, sa mobilité, en tout cas sa mobilité vers l'avant, va être extrêmement productif. Par contre, effectivement, sa mobilité latérale, et c'est pour ça que c'est un centre hein, en même temps, va être très problématique s'il est face à des defensive tackles très mobiles. Tonio, est-ce que cette description du profil te conviendrait pour Zach Frazier? Ou alors, il y a peut-être une petite nuance, notamment pour la protection de passe?
Non, c'est exactement ça. Et je pense qu'on peut même insister encore une fois sur sa vitesse, mais sa vitesse verticale. Il faut bien insister là-dessus.
Voilà.
Pas latérale. Mais dès le snap, il est très véloce. Son premier pas, bam, ça, c'est très explosif, ça part tout de suite. Parfois même à la limite de la faute, un peu à la Jason Kelce. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi ce qui fait. C'est un des atouts des grands joueurs de ligne offensive, être à la limite de la faute. Lui, il a beaucoup fait. Il a un côté méchant, un côté tueur dans ses actions, ça aussi on adore. Dans le jeu de passe, effectivement, il est un peu limité, même si je trouve qu'il a une qualité qui est appréciable, c'est qu'il est patient. Il ne se précipite pas dans ses blocs.
Oui.
Et ça, c'est important. Et je pense qu'il le sait, comme il est un peu limité en termes de déplacement latéral, s'il se précipite et qu'il se trompe, il est mort. Il est mort, et ça même dès le niveau universitaire. Donc, en NFL, il faudra faire très attention à ça. Mais en dehors de ça, il a de très belles qualités pour un centre. Le QI football qui a l'air au point, je ne l'ai jamais vu se faire prendre, encore une fois, par une faute de jeu.
Non, il est très propre. Oui, très propre.
Ouais, c'est ça.
Un joueur très propre.
Juste pour finir, sans être le plus fort, ni le plus grand, ni le plus costaud, il arrive quand même souvent à prendre l'avantage sur son vis-à-vis parce qu'il sait bien utiliser son corps. Il arrive bien à utiliser son corps comme contrepoids par rapport à ses adversaires. Et là, encore une fois, on voit que c'est un mec qui est très intelligent.
Moi, ce qui va qui est un peu chafouin avec Zach Frazier, ce qui m'inquiète un peu, on va dire, c'est son côté athlétique. Parce qu'on a mentionné des centres qui étaient très athlétiques, qui n'avaient pas de problème, en tout cas, de ce point de vue-là. Et là, avec Zach Frazier, on est un peu un cran en dessous. On est vraiment un cran en dessous, alors que pourtant, c'est un ancien champion de lutte. Donc, il a été 4 fois champion lycéen de lutte. Alors, vous allez me dire, pour la lutte, on n'a pas vraiment besoin de qualité athlétique, on a plus besoin de qualité physique, de puissance, etc. Et tu l'as très bien dit, effectivement, Antonio, c'est le premier pas, effectivement, hyper explosif. Mais c'est aussi un joueur très intelligent. C'est vraiment un joueur intelligent avant tout, avec un centre de gravité bien bas. Et donc, c'est pour ça que face à des joueurs de ligne défensive intérieure, même s'ils sont plus rapides que lui, il va pouvoir, grâce à son centre de gravité très bas, à pouvoir le bloquer et à pouvoir avoir une poche, on va dire, assez propre. Mais voilà, c'est là où il doit travailler, avoir une poche très propre afin que les joueurs, les entraîneurs de la ligne offensive, voire le coordinateur offensif, puissent lui faire confiance.
Ouais, mais moi, c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis pour lui, c'est que ses défauts, normalement, auraient déjà dû lui porter préjudice au niveau universitaire. Quand on a ces défauts-là, il n'y a pas besoin d'attendre la NFL pour se faire prendre. Et pourtant, il ne s'est pas fait prendre, parce qu'il a réussi à s'adapter. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour lui en NFL. Effectivement, ça va être plus dur, parce que l'adversité est d'un autre niveau. Mais avec le temps, je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il puisse s'adapter. C'est limite athlétique parce que j'ai mentionné Jason Kelce tout à l'heure pour le premier pas. La comparaison s'arrête là. Jason Kelce, c'est un des centres les plus rapides qu'on ait jamais vu. Zach Frazier, c'est pas du tout le cas. Et c'était pas le cas à l'université, ce sera pas le cas en NFL. Il s'est bien adapté en université, je vois pas pourquoi ce sera différent en NFL.
Alors, figure-toi, Tony, on a fait un centre pour chaque partie quand même. C'est très fort ce qu'on a fait parce que je pense que c'est très rare d'avoir ça pour terminer avec les trois parties. On a oublié de citer, bien sûr, beaucoup de gardes et de centres qui pouvaient être dans ce podcast, notamment Zach Zinter qui aurait pu et qui aurait peut-être dû être présent, le joueur de Michigan. Mais malheureusement, une blessure au ligament croisé va peut-être faire que sa carrière en NFL sera peut-être limitée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 9 joueurs qu'on a cités, Tonio, vont avoir, je pense, une belle carrière NFL. Je pense que certains ne vont peut-être pas voir les 3 premiers tours, mais pour la plupart d'entre eux, ils vont forcément aller être sélectionnés dans les 3 premiers tours par une équipe NFL. Alors, Tonio, est-ce qu'on a fait le tour des joueurs?
Ouais, je pense qu'on a été assez complet. Simplement, juste pour ajouter que si on combine ces joueurs de ligne intérieure au tackle, je pense qu'on a une classe de joueurs de ligne offensive qui est assez phénoménale quand même cette année. Pour toutes les équipes qui sont à la recherche de gros pour protéger le quarterback ou pour améliorer leur jeu de course, c'est l'année où il faut avoir beaucoup de choix dans les 3-4 premiers tours pour renforcer son escouade.
Voilà, bien résumé, hein, Tonio. Je ne peux pas en dire plus, en tout cas, parfait pour cette analyse. Et c'est vrai que voilà, pour la draft NFL, je rappelle, fin avril 2024, il y aura probablement de la puissance et de la masse physique qui vont être appelés sur la scène par Roger Goodell et autres annonceurs. C'est tout pour ce podcast donc consacré aux hommes de ligne offensive intérieure. Vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com. Pour la suite, vous pouvez retrouver, je pense, il me semble que c'est Victor et Jean-Michel de nouveau qui vont vous parler, alors soit des edge rushers, soit des receveurs, je m'en souviens plus, mais je pense que c'est edge rusher, puisque je pense qu'on alterne attaque et défense. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, hein, Twitter, TikTok et en entier Touchdown Actu sur Instagram. N'oubliez pas le Tipeee, évidemment, c'est ce qui nous sert à financer ce podcast et l'hébergement de tous les podcasts sur touchdownactu.com. Évidemment, toute l'actualité, c'est sur touchdownactu.com. Quant à moi, vous pouvez me retrouver évidemment sur les antennes de TDA. À bientôt. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.